Jean de la Brette. Un premier pas dans l'indépendance. Récit d'une jeune fille. Nous étions tous réunis dans le salon. Je venais de recevoir la lettre d'une amie qui m'invitait à aller passer quelques semaines chez elle, en ajoutant qu'il était temps de rompre mes lisières et de voler seule. La discussion était chaude entre les divers membres de ma famille. Les vieux hochaient la tête et prenaient un air sévère devant le souffle d'indépendance qui passait subitement dans leur vie tranquille, monotone et réglée comme le balancier de la grande horloge dont nous entendions le bruit perpétuel dans le vestibule. Les jeunes, eux, prenaient un air riant et plaidaient pour leur grand sein en approuvant mon envolée vers le pays de la liberté. Une vieille cousine, après un premier moment de stupéfaction qui l'avait tout d'abord rendue muette, jetait de grands cris. « Voyager seul, toi, déjà ?» Cet acte inouï était bien un signe des temps. Une marche accélérée vers un cataclysme qui achèverait d'emporter tout ce que la tradition infortunée et mutilée nous conserve de docte, de vénérable et de parfait. Enfin, c'était au fond le plus gros grief de la vieille dame qui m'adorait. Cette première manifestation vers l'indépendance me rapprochait de la vieille fille et ma cousine, qui rêvait toujours pour moi bel officier ou savant ingénieur, se lamentait comme jadis un prophète célèbre. À ce dernier trait, mes yeux se tournèrent vers la glace où j'aperçus une silhouette fine, élégante, un teint délicat et un cou blanc qui ne pouvait plonger aucun mortel dans les ténèbres d'une grossière erreur. Ainsi rassuré, j'argumentai. J'entassai raison sur raison et achevai ma période en m'écriant que nul ne pouvait lire sur mon front que je n'avais point de mari et que, si à 16 ans j'avais été pourvu de cet ingrédient, on m'eût, le cas échéant, expédié seul à l'autre bout de la terre. C'est le comble du sens commun, dis-je avec un dédain renfrogné. Ma mère, soupirant devant la marche des années, dont le nombre sollicitait pour moi une émancipation plus complète, me répondit d'agir à ma guise, en ajoutant qu'elle me conduirait, du reste, à Dives, où l'on change de train, et qu'après m'avoir installé dans le compartiment des dames seules, elle confierait sa fille et son honneur au Dieu propice. « À Rennes, continua-t-elle, tu trouveras le mari de ton ami, car je suis d'avis qu'on ne refuse pas la proposition qu'il a faite de venir au-devant de toi jusque-là. Cet arrangement me rassure, car ainsi tu seras seule à peine 2 heures. » Ainsi dit, ainsi fait. 3 jours après, ma famille, un peu nerveuse, me serrait dans ses bras. Ma cousine, renvoyant d'un mouvement brusque ses lunettes dans ses bandeaux blancs, m'embrassa en disant d'un ton pénétré « Adieu, pauvre enfant !» Ce qui signifiait en français pur « Il faut tout craindre, la faire voyager seule, si jeune encore, sans la sanction de Dieu et des sociétés, sanction indispensable pour ne pas être avalée toute crue par un homme quelconque. C'est de l'insanité !» À Dives, ma mère, le cœur serré, m'abandonna, avec les plus expresses recommandations de ne pas bouger de mon compartiment. Le ciel sait que je n'en avais nulle envie. Quand, pour la première fois, je me vis seul, courant à toute vitesse sur les grands chemins, je me crus perdu, ou à peu près. Le remords m'accablait sans que je susse pourquoi, et l'on m'eût dit, certifié, prouvé, que j'avais commis un crime énorme, qu'il n'eût point été nécessaire de recourir à un interrogatoire insidieux pour me faire avouer mon forfait. Montre en main, ce piteux état moral dura 1 heure et 15 minutes, moment où je fus distraite par un arrêt inusité à quelques pas d'une station. Des inondations, causées par des pluies torrentielles tombées les jours précédents, avaient détérioré la voie. Nous fûmes obligés d'attendre si longtemps que ce retard m'assombrit et me parut être d'un augure lamentable pour la suite de mon voyage. Après quoi, pour rattraper le temps perdu, nous partîmes à toute vapeur, au grand émoi des voyageurs, si je juge d'après mes impressions, et nous entrâmes comme la foudre dans la gare de Rennes. Un orage épouvantable était survenu, une foule compacte de gens ahuris, pataugeait dans l'eau qui ruisselait, on ne sait comment, sur tous les quais. Différents trains, que l'inondation avait également mis en retard, venaient d'arriver. Les voyageurs réclamaient des indications. Les employés, en proie à la plus violente agitation, couraient, criaient, perdaient la tête, et, assez inquiète de mon propre sort, je descendis dans le fleuve en me demandant comment je pourrais découvrir M. Saluc dans ses masses affairées et barbotantes. Je ne l'avais jamais vu, mais la veille encore, j'avais scruté attentivement sa photographie et mon ami m'avait écrit que, comme signe distinctif, il aurait un chapeau gris. Par malheur, ce jour-là, une quantité d'hommes avait été saisie d'une passion entraînante pour le gris. 10 fois, j'avais failli me compromettre en m'élançant vers mon point de ralliement et j'allais tomber dans le découragement quand, enfin, un chapeau gris, abritant le visage barbu et bronzé du marin que j'attendais, s'approcha de moi et me dit « Mademoiselle du Nil, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, je vous cherchais avec anxiété, » dis-je en recouvrant instantanément l'aisance et l'aplomb qui me quittent rarement. « Je vous ai vu descendre du compartiment des dames, mademoiselle, mais la foule m'empêchait d'approcher. » Sur ce, nous nous fîmes les plus grands compliments du monde et, comme je le remerciais de s'être dérangé pour venir me quérir à Rennes, il m'assura qu'il en était charmé et je m'empressai de n'en rien croire, ayant pour habitude, bien que dissimulant mon scepticisme, de prendre à rebours toutes les affirmations de cette espèce. « Combien avons-nous d'arrêts ici ? » demandai-je. « Où est le train où nous devons monter ?»« Nous avons 15 minutes, mademoiselle, mais je vous avoue que je ne suis pas sans inquiétude. Votre train avait plus d'une heure et demie de retard et je crains que nous n'arrivions pas à temps à Redon pour prendre la correspondance de l'Orient. » À ces mots terrifiants, je faillis laisser tomber mon ombrelle. « Ne pas arriver ce soir à l'Orient, » m'écriai-je en perdant une parcelle du calme superbe dont j'enveloppe généralement mes impressions les plus vives. « Veuillez m'attendre ici, mademoiselle, je vais m'informer auprès du chef de gare. » Un instant après, il revenait avec la mine d'un homme qui a reçu quelque orion. « Que voulez-vous faire, mademoiselle ?» me dit-il. « Sur 10 chances, nous en avons 9 de ne pas arriver à temps à Redon. » « Voulez-vous que nous nous arrêtions ici, où nous trouverons de bons hôtels, tandis qu'à Redon ?»« Mais peut-être aurons-nous la bonne fortune de tomber sur la 10e chance, » dis-je en souriant. « Continuons, si vous voulez bien. » C'était mon devoir d'aller le plus loin possible, et je n'eus pas un instant d'hésitation, ce qui m'a fait supposer depuis que je pourrais bien posséder ce qu'on appelle un caractère. » À Redon, nous sautâmes vivement sur le quai. Il y avait 3 quarts d'heure que notre train avait disparu à l'horizon. Je jetai un regard mélancolique sur la voie dont les rails humides brillaient sous un soleil qui, réapparu subitement, se moquait de moi. M. Saluc me parut être dans l'état moral d'un brave chevalier qui n'a pu se venger d'une insulte reçue sous les yeux de sa dame. La consternation était peinte sur ses traits que j'aurais voulu surmonter d'un casque et d'un panache afin d'achever l'illusion. J'eus l'idée de lui crier « À la rescousse, Tancrède, que ton cœur vaillant ne se laisse pas abattre par l'infortune !» Mais, outre que la rescousse dans ce cas eût été de courir à toutes jambes après le train parti et de le ramener à mes pieds, ce qu'il eût été vraiment difficile d'entreprendre, tout preux que l'on soit, ce langage féodal eût peut-être achevé sa déroute et je me contentai de dire, en dissimulant sous mon air tranquille une violente envie de rire, « Eh bien, comme vous le craignez, nous voilà condamnés à rester ici. »« Mademoiselle, mon Dieu, oui, vraiment, je suis désolée de ce contretemps. » Il n'avait pas besoin de l'affirmer, le fait était écrit sur son visage éploré. « Mais, monsieur, ce n'est pas votre faute, » dis-je, profitant de la voie ouverte pour donner la liberté à ma gaieté. « Évidemment, il faut en prendre son parti, » reprit-il avec l'énergie subite et le ton de dérision qu'il doit avoir quand il commande un bateau en détresse. « Si vous le permettez, je vais d'abord envoyer une dépêche à ma femme, puis nous irons déposer nos sacs à l'auberge. » 20 minutes plus tard, nous entrions dans la cour d'une grande maison qui portait l'enseigne fameuse « Hôtel de l'Armorique » afin de mieux attraper les gens. « Voici le moment épineux, pensais-je à part moi. » Avec pudeur, je restais d'un mètre en arrière, tout en observant les événements d'un œil auquel rien n'échappe. L'hôtelier, un gros bonhomme à la face rouge et pleine, accourut avec l'empressement rapace d'un vautour, bien que, physiquement, il ne ressemblât en rien à cet oiseau, mais il est indubitable qu'il en avait le moral, car les proies sont rares à Redon. D'une voix formidable, il fit ses offres de service avant que M. Saluc ait pu prononcer un mot. « Monsieur désire une chambre. Nous en avons une excellente où madame se trouvera très bien. Mais si monsieur désire une chambre à deux lits, nous avons ce que monsieur peut souhaiter. Deux chambres! Deux chambres !» exclama M. Saluc d'une voix étranglée. « Deux chambres? Parfaitement, monsieur. Si monsieur et madame veulent entrer un instant dans le petit salon pour se rafraîchir, nous entrâmes dans le petit salon dont la porte resta ouverte à cause de la chaleur. Pendant que j'essayais de noyer mon hilarité rentrée dans un verre de sirop, nous entendîmes un tapage affreux au-dessus de nos têtes. Une porte était secouée à l'étage supérieur comme si on avait voulu l'enfoncer. Une servante dégringola l'escalier, une clé rouillée à la main, et nous l'entendîmes demander de l'huile. Elle fut suivie immédiatement de l'hôtelier qui, la face pourpre, réclama un marteau et, brandissant cet instrument, remonta 4 à 4 à son ouvrage de cyclope. « Voulez-vous aller dans votre chambre maintenant, mademoiselle ?» me dit M. Saluc. « Ou préférez-vous que nous nous promenions avant le dîner ?»« Visitons Redon, » répondis-je en me levant. Nous charmâmes notre situation équivoque en effleurant les sujets les plus divers, depuis les mœurs de Tahiti, que mon marin n'était pas sans connaître et qu'il me narra en chaste description, jusqu'aux sombres horizons politiques. Par bonheur, Mentor était optimiste en sa qualité de sage et je pus me promener paisiblement, sans crainte de voir les gouffres noirs du socialisme s'ouvrir sous mes pas. À la suite de quoi, nous revînmes dîner dans un salon particulier, au milieu des plus étranges suppositions d'une servante rebondie, d'un garçon éthique, du maître de l'auberge et de la maîtresse de séance. La tête à l'envers, ils venaient nous servir à tour de rôle, puis allaient se narrer leurs observations réciproques et creuser le mystère. 9 heures sonnant, je suggérai l'idée que nous pouvions monter et nous nous dirigeâmes vers le premier étage, escorté de l'hôtelier qui nous précédait, un flambeau à la main, avec l'air modeste mais satisfait d'un héros dont les exploits vont être récompensés. La première chose qui me frappa en entrant dans mon appartement fut une porte largement ouverte, communiquant avec la seconde chambre. L'aubergiste lança un regard sournois vers ce chef-d'œuvre pendant que M. Saluc, qui était entré chez lui par ce corridor, se précipitait sur la porte et la fermait rageusement en s'écriant « Oh, 1000 pardons !» Le large visage de mon hôtelier passant en une minute par les phases les plus diverses de la stupéfaction la plus complète. Il disparut prestement et, sur la pointe du pied, je m'approchai de la porte qui, condamné depuis longtemps, avait nécessité pour s'ouvrir les efforts de tout le personnel de la maison. Les yeux attachés sur un gros verrou tout rouillé, je restai longtemps dans la plus effroyable perplexité. Le pousserai-je? Ne le pousserai-je pas? Assurément, il résisterait, le fracas serait terrible. Ce mentor d'une nouvelle espèce rirait en tapinois et je serais couverte de confusion. L'arrivée de la servante joufflue interrompit mes réflexions. Elle portait un plateau et me dit d'un air gracieux, dans lequel je crus découvrir un sous-entendu tout plein d'indulgente gaieté. « Madame prendra sans doute le thé dans la chambre de monsieur. » Ce dernier coup m'acheva. « Mais je n'ai rien commandé, » criai-je exaspéré. « Qu'on me laisse tranquille, je ne veux rien. » Et, fermant brusquement ma porte, je revins toute rouge, me planter en face de ce verrou diabolique qui m'attirait comme le fruit défendu. Puis, haussant les épaules, je lui tournai le dos et me couchai paisiblement. Paisiblement n'est peut-être pas une expression très exacte, et je ne puis dire que mon sommeil fut celui du juste. Il me semblait que j'avais quitté la voie de cet homme remarquable, et je songeais, moitié riant, moitié ennuyé, aux aventures de mon premier pas vers la liberté. Voilà où j'en suis, pensais-je, pendant que ma famille est pleurée, de me voir entreprendre seul le plus innocent, le plus tranquille des voyages, me croit sous les ailes d'une amie. À peine un filet de lumière se faufilait-il le matin dans ma chambre, que j'entendis le chevalier se lever en hâte, s'habiller au plus vite et disparaître comme l'éclair, pour que son voisinage ne me fît pas gémir, pendant ma toilette, sur les inconvénients des auberges sonores. En nous retrouvant, en bas, nous nous assurâmes réciproquement que nous avions passé une nuit parfaite. L'hôtelier, complètement abasourdi, nous lançait des regards inquiets et soupçonneux. Peut-être songeait-il que j'étais une mineure enlevée qui allait se marier en pays étranger et qu'il agirait judicieusement en courant chercher la gendarmerie. Quand nous partîmes dans un vieil omnibus dont les craquements me faisaient supposer que nous n'arriverions pas en vie à la gare, serviteurs, propriétaires de l'auberge, voyageurs, étaient aux fenêtres et sur le seuil des portes. Un valet d'écurie, appuyé sur sa fourche, les cheveux en broussailles et parsemés de brins de paille, l'air stupéfait, semblait dire « Ah, dame, en v'là-t-y une histoire !» Et voilà comme quoi, dans quelques centaines d'années, les vieilles femmes de ce petit coin de terre conteront une aventure qui leur viendra de leur arrière-arrière-arrière-grand-mère. L'histoire d'une jeune dame que son époux emmena bien loin avec lui le jour de son mariage et que le mauvais état des routes obligea de coucher dans l'hôtellerie de cet endroit qui, jadis, il y avait bien longtemps, s'appelait Redon, et que ce chevalier était si respectueux, que jamais oncle ne vit pareille merveille. Or, mes petits-enfants, ce temps-là ne ressemblait point au nôtre et valait 100 fois mieux. Je ne sais si l'imagination de mon chevalier se voyait transformée en légende. Je ne sais si l'imagination de mon chevalier se voyait transformée en légende merveilleuse dans les temps lointains, lointains, mais quand je le regardais, ses yeux riaient et j'eus quelque peine à ne pas m'abandonner au fou rire que je sentais m'étouffer. 3 heures après, nous entrions dans l'Orient. Mon ami était sur le quai de la gare, battant des mains, riant et me criant « Joli début, joli début !» Jean de la Brette.